Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela s'est passé aujourd'hui au Mali, une cérémonie de réparation symbolique dans l'affaire des mausolées de Tombouctou, détruits en 2012 au moment de l'occupation du nord du pays par les groupes djihadistes. Depuis, ces monuments, dont certains dataient du XIVe siècle, ont été reconstruits, ils ont retrouvé leur vocation, mais des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, aux ruines de Palmyre en Syrie, en passant par de nombreux édifices religieux et les vestiges assyriens de Mossoul en Irak. La destruction du patrimoine est une arme de guerre et la restauration ou la reconstruction est complexe. Comment traiter le patrimoine détruit pendant les conflits? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont en ligne en direct avec nous aujourd'hui. Jacques Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Et Vincent Négri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, chercheur associé au CNRS, affilié à l'Institut des sciences sociales et du politique, et auteur du livre « Le patrimoine culturel, cible des conflits armés » aux éditions Bruyant. J'ai cité, Vincent Négri, un certain nombre d'exemples parmi les plus connus, mais est-ce que la destruction du patrimoine est quelque chose de systématique dans les conflits armés? Est-ce que c'est un phénomène de quelle ampleur, en fait?
C'est un phénomène qui n'est pas récent. Aujourd'hui, ce qui met la lumière, on va dire, sur ces destructions, c'est la diffusion de l'information et le fait que nous sommes dans un monde qui est globalisé, donc nous avons accès à toutes ces images. Mais la destruction a toujours accompagné les conflits armés, toujours, de tout temps, même au VIe siècle avant Jésus-Christ. Assurbanipal, quand il conquit la ville de Sousse, il explique, il relate à la fois dans ses écrits et dans les bas-reliefs la destruction de la ville et le fait qu'il faut tout anéantir. Et une fois que tout a été détruit, donc décrit par le détail, cette destruction, il dit, voilà, je fais répandre du sel sur la terre des lames donc, pour que rien ne repousse. On voyait bien, là on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on est effectivement confronté à ces images spectaculaires, mais elles ne sont que la suite, on va dire, comme jalon dans une généalogie déjà très, très abondante. Et puis, je pense que, dans l'exemple que vous avez cité, il faut mettre à part le cas des bouddhas de Bamiyan. Parce que Bamiyan, c'est un cas particulier à mesure où l'Afghanistan n'est pas en guerre quand les bouddhas sont détruits. Certes, il y a une crise internationale, mais il n'y a pas de conflit armé en Afghanistan. Donc, les bouddhas d'Amiens, c'est un État qui décide délibérément d'effacer une partie de sa propre histoire. Et ça encore, certes, l'image est spectaculaire, mais on a d'autres exemples dans l'histoire du monde où des États ont effacé une partie de leur histoire. Donc, vous voyez bien que ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est le spectacle de ces destructions, mais finalement, ces destructions sont une histoire qui se répète.
Jacques Moulin, ces destructions de patrimoine, le patrimoine, c'est la mémoire, donc ces destructions de patrimoine, il y a un côté symbolique, on repart de zéro, on verse du sel sur le sol, comme le disait à l'instant Vincent Négri, c'est pour tout reconstruire à partir de zéro, c'est l'idée.
Je participe complètement à l'analyse de Vincent Négri sur cette constance de la volonté de destruction. En revanche, je crois que aussi systématiquement, il y a eu une volonté de reconstruction, et ça depuis l'Antiquité. On a beau avoir détruit Carthage, Carthage a été reconstruite, et très régulièrement, on voit qu'en réponse à ces destructions fortement symboliques, il y a une volonté de reconstruction tout aussi symbolique. Ça concerne les conflits armés, ça concerne les conflits religieux, et la crise iconoclaste, aussi bien en Europe occidentale qu'à Byzance, a été suivie par une volonté, une démultiplication de la volonté d'image, et ça se retrouve dans les conflits politiques même du XXe siècle. Les volontés destructrices d'un certain nombre de régimes ont eu comme conséquence une volonté de reconstruction pour retrouver une identité, parfois artificielle, mais une reconstitution de mémoire. C'est un mouvement absolument permanent qui accompagne la volonté de destruction.
Vincent Negri, juridiquement, aujourd'hui, hein, à l'époque où on parle, la nôtre, au XXIe siècle, est-ce que tout ça c'est considéré comme un crime de guerre, de détruire quelque chose qui est considéré comme du patrimoine, et notamment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Juridiquement, détruire du patrimoine, ça veut dire quoi?
Juridiquement, détruire le patrimoine, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des juristes, une incrimination pénale. C'est-à-dire que c'est non seulement un crime de guerre, mais depuis le statut de la Cour pénale internationale qui a été adopté en 1998, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, cette qualification, finalement, elle est l'aboutissement également d'une longue histoire du droit international, puisque lorsque l'on a posé les premières règles sur le droit de la guerre, parce qu'aussi collé que ça puisse paraître, il y a un droit de la guerre. Et ce droit de la guerre a été formalisé à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Quand on a énoncé ce droit de la guerre, on a prévu que le patrimoine culturel bénéficierait d'un régime d'immunité, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une attaque. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais ce régime n'a pas été d'une grande efficacité. Certes, mais finalement, dans les premières règles qui datent de la charnière entre le 19e et le 20e siècle, il y a une règle qui dit que toute saisie, toute destruction de biens culturels, de patrimoine culturel est interdite et doit être poursuivie. Et finalement, un siècle plus tard, quand on adopte le statut de la Cour pénale internationale, eh bien finalement, on donne vie à cette interdiction en posant un principe qui est dans l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale, selon lequel la destruction du patrimoine culturel constitue un crime de guerre et peut même constituer un crime contre l'humanité. Donc on est effectivement dans une sanction pénale forte dont témoigne justement l'arrêt, ou enfin, plus exactement le jugement de la Cour pénale internationale dans l'affaire de Tombouctou, qui a fait l'objet de la cérémonie aujourd'hui.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé effectivement à ceux qui ont ordonné la destruction des mausolées de Tombouctou. Jacques Moulin, la destruction du patrimoine, elle prend le plus souvent la forme de ce que l'on a vu à Bamiyan et à Mossoul avec les vestiges assyriens, ou est-ce qu'elle se produit plutôt par le vol et le trafic d'œuvres ou de vestiges, parce que c'est une façon de détruire aussi, de disséminer aux quatre vents des œuvres ou des vestiges?
On arrive là au paradoxe. À la fois, lorsque une volonté de sanctuarisation, de protection du patrimoine, avec tout l'arsenal juridique qui peut l'accompagner, peut se traduire par une visibilité renforcée d'une action sur ce patrimoine, et donc une démultiplication de la volonté de destruction. Dans le même registre, le vol, le pillage, a comme effet paradoxal d'être à la fois une destruction d'un patrimoine local, mais une diffusion formidablement mondiale de la notoriété de ces mêmes objets. Quand vous voyez, par exemple, en Chine, à quel point les enquêtes archéologiques menées par Victor Segalen ou d'autres au début du XXe siècle se sont traduites par une disparition presque complète des grands ouvrages qui ont pu être photographiés à l'époque, on peut se dire que le pillage des tombes chinoises, avec les produits qui ont été diffusés sur la planète, a été le facteur de protection, peut-être, de l'essentiel de ce patrimoine. C'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal, mais c'est le bon côté d'une horreur. On ne peut pas simplement donner à une action un jugement totalement univoque. C'est peut-être la diffusion, la vente abusive du patrimoine pillé en Irak qui contribuera à sauver l'Irak.
Vincent Negri, effectivement, s'il n'y a pas de pillage lors de l'expédition d'Égypte, il n'y a pas de département d'égyptologie au musée du Louvre.
Oui, c'est tout le paradoxe, mais je pense qu'il ne faut pas non plus revisiter l'histoire avec le critère de 2021. C'est-à-dire que je pense que calquer sur des épisodes du 19e siècle ou du début 20e siècle notre lecture du droit international contemporain, je pense que c'est une erreur tragique de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être dans des postures de dialogue et d'écoute, bien évidemment, des revendications qui sont formulées. Mais on ne peut pas juger des faits qui ont été commis il y a un siècle ou il y a peut-être 50 ans ou environ 80 ans avec notre droit contemporain. On ne peut pas avoir une vision ex post de ce point de vue-là. Et puis,
tout à fait.
Et puis sur la question du pillage, je pense qu'il faut aussi, c'est un phénomène de destruction, le pillage. N'oubliez pas ce que Quatremer de Quincy écrivait en 1816, quand il indigné des spoliations napoléoniennes, et c'est lui qui emploie le terme de spoliation dans les lettres qu'il envoie à Miranda. Il dit, à un moment donné dans ses lettres, il dit « disperser, c'est détruire ». Vous voyez, en quatre mots, tout est dit, c'est-à-dire que disperser les collections italiennes, démembrer les collections italiennes, c'est détruire le patrimoine italien, c'est détruire la culture italienne. Donc, qu'il s'agisse de destruction des monuments ou du pillage, on va dire, des sites archéologiques, je dirais que nous sommes effectivement sur une même logique d'effacement d'une culture.
Jacques Moulin, vous voulez ajouter quelque chose à ça ?
C'est tout à fait vrai aujourd'hui et j'y participe complètement. La seule nuance qu'on pourrait apporter, c'est que les pillages napoléoniens étaient des pillages savants, éminemment spoliateurs, mais éminemment respectueux des œuvres. Aujourd'hui, on se trouve parfois dans des situations où il y a une volonté destructrice des œuvres, que ce soit des architectures, que ce soit des objets archéologiques, que ce soit des œuvres d'art. Il y a parfois une volonté d'annihilation d'une œuvre. Et dans ce cas un peu exceptionnel, le paradoxe veut que le pillage parvienne à sauver ces œuvres-là. Mieux aurait valu que les Bouddhas de Bamiyan, s'ils avaient été assez exportables, le soient plutôt qu'ils fussent détruits.
Jacques Moulin, je reste avec vous. Une fois que les conflits sont terminés, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut reconstruire à l'identique ? Si on continue avec notre exemple des mausolées de Tombouctou, certains ont été construits il y a 7 siècles. Ils ont été donc détruits, rasés, et puis ils ont été reconstruits, alors certes avec des techniques traditionnelles, mais est-ce que c'est vraiment la même chose ?
Par définition, une reconstruction n'est jamais la même chose. Aussi proche soit-elle des dispositions antérieures, une reconstruction est une volonté de mémoire, c'est-à-dire l'actualité d'une réfection, mais d'une réfection qui se projette sur le passé. Vous citez les mausolées de Tombouctou, regardez ce qui s'est passé à Saint-Denis après la Révolution française, il y a eu une volonté de réinhumation, une volonté de réaffecter une basilique aux sépultures royales, puis impériales d'ailleurs. On se retrouve dans un phénomène de reconduction d'une forme, d'un fonctionnement, d'une symbolique ancienne. Alors ensuite, les capacités à refaire sont infiniment différentes. Tout dépend de la documentation que l'on peut avoir sur un ouvrage. Vous avez, si vous vous promenez à Delphes aujourd'hui, des bâtiments qui ont été détruits de mille manières différentes, dont les restitutions archéologiques sont aujourd'hui au millimètre près. Vous regardez le trésor des Athéniens à Delphes, c'est un remontage archéologique entièrement du XXe siècle, et pourtant scrupuleusement exact. À côté de ça, vous avez des bâtiments qui ont été détruits relativement récemment, dans le monde soviétique, un certain nombre de grandes églises orthodoxes, et dont le remontage aujourd'hui, fait en béton, avec des plaquages, avec des décors complètement modernes, ne sont qu'une paraphrase très, très éloignée. Donc, il y a toutes sortes de reconstructions, et la proximité entre la destruction et la reconstruction n'est pas un gage d'authenticité de forme. Et puis, le dernier cas de figure, c'est celui d'une œuvre d'art comme une sculpture ou une peinture. Elle ne peut jamais être refaite par des artistes qui sont morts il y a quelques siècles. On est donc là dans un traitement de mémoire complètement différent qui s'apparenterait dans d'autres pathologies à celui de la croissance post-traumatique. Comment, après un conflit et un amoindrissement, la perte d'une œuvre, peut-on retrouver quelque chose si ce n'est d'équivalent, voire même de mieux. Ce que les Anglais ont fait après le bombardement de la ville de Coventry, après la dernière guerre mondiale, a été le maintien d'une ruine de la cathédrale, mais devenu le vestibule d'une formidable église, d'une formidable cathédrale moderne, assurant à la fois le souvenir de ce qui a été fait, le souvenir du monument, le souvenir de sa destruction, mais le transcender dans un ouvrage moderne beaucoup plus enthousiasmant.
Vincent Négri, est-ce qu'il y a une sorte d'encadrement juridique au niveau de l'UNESCO, par exemple, de ces questions de comment reconstruire ou pas d'ailleurs ?
Il n'y a pas d'encadrement juridique à proprement parler. Il y a un principe qui est fixé cette fois-ci par le droit international, qui est un principe de réparation. C'est-à-dire que dès lors que vous avez la possibilité d'engager la responsabilité de l'auteur d'un acte destructeur, la Cour pénale internationale peut, et c'est ce qui a été fait dans le cas de Tombouctou, prendre une ordonnance de réparation donc qui condamne l'auteur de destruction à réparer les dommages qui ont été commis. Et sur cette question-là, je crois que sur la question de Tombouctou, on est dans un cas bien particulier. C'est-à-dire que je crois qu'il faut différencier d'autres cas de reconstruction. Dans la mesure où il s'agit de mausolées qui sont en terre, donc nous savons que ce soit sur les mausolées, que ce soit sur les mosquées de Djéné ou de Tombouctou, nous savons que ces architectures en terre sont particulièrement fragiles et sensibles à l'érosion éolienne et à l'érosion du temps, à la pluviométrie également, et que c'est par exemple les mosquées ou les mausolées en l'occurrence, sont rebâtis, sont restaurés chaque année pendant une semaine à l'appel de l'imam où vous avez une cérémonie traditionnelle qui répare les outrages du temps passé au cours de l'année sur ces bâtiments. Donc, parce que cette tour de terre donc s'érode, évidemment, on le comprend bien. Donc ce qui importe de ce point de vue-là, et donc vous avez un document important dans la doctrine de l'UNESCO, c'est le document de Nara sur l'authenticité qui a été adopté donc au Japon en 1994, donc à Nara, le lieu, le document porte le nom du lieu où il a été adopté, qui précise que l'authenticité doit s'éloigner, on va dire, de notre terminologie occidentale, ou tout au moins elle doit être élargie pour intégrer la question des savoir-faire, la question des matériaux. Et donc, dès lors que nous sommes sur des savoir-faire qui ont une continuité dans le temps, dès lors que les matériaux sont toujours ceux qui étaient là à l'origine, l'authenticité peut être satisfaite. Donc, c'est une appréciation au cas par cas. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être, dans ce cas-là, il faut accepter la diversité des modes constructifs, la diversité des cultures. Et bien évidemment, on ne peut pas traiter l'authenticité d'une cathédrale comme celle des mausolées Tombouctou, parce que le matériau, parce que le contexte social, le contexte économique, le contexte culturel n'est pas tout à fait identique, bien évidemment.
Ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire, c'est que les mausolées de Tombouctou, ce sont des constructions qui sont vivantes. Elles ont beau avoir 700 ans, mais on n'a pas affaire aux murs qu'il y avait il y a 700 ans.
Ah ben c'est évident, je veux dire que l'architecture de terre, si vous l'entretenez pas, elle fond, hein, littéralement, je veux dire que sous l'effet des pluies et sous l'effet de l'érosion éolienne. Donc d'où ces pratiques traditionnelles de conservation qui ont été très bien étudiées, notamment par Crater, hein, qui est le centre de recherche sur l'architecture de terre, hein, qui a publié un ouvrage absolument passionnant justement sur les techniques traditionnelles de conservation en prenant appui justement sur cette architecture de terre, donc au Mali, bien évidemment. Et puis, ce qui est important dans le cas de Tombouctou, c'est que c'est une reconstruction qui est faite à la demande des communautés. Donc ça, c'est un point, à mon sens, focal, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reconstruire envers et contre tout, mais il s'agit d'être à l'écoute des populations locales, savoir est-ce qu'elles veulent que ce soit reconstruit et sous quelle forme et à quelles conditions. Et donc là, évidemment, à Tombouctou, il s'agissait de reconstruire les mausolées tels qu'ils étaient avant qu'ils soient détruits par les djihadistes.
Pour perpétuer une pratique religieuse, Jacques Moulin, ça pose une question vraiment fondamentale, presque philosophique, très intéressante en tout cas. Comment est-ce qu'on choisit ce qui doit être reconstruit et ce qui ne doit pas l'être ?
Oh, c'est une question à plusieurs registres.
Jacques Moulin.
Ce que disait Vincent Négri, j'ai particulièrement apprécié qu'il évoque à propos des références de l'UNESCO le document de Nara. Il faut savoir que ce document succède à une charte qui hiérarchiquement est plus est majeure par rapport à ce document, qui est la charte de Venise. Cette charte de Venise codifie un peu les pratiques de restauration. Et cette charte de Venise a été rédigée en 1960, est un document qui avait été conçu dans une perspective parfaitement néocoloniale. C'est-à-dire qu'une pincée d'occidentaux érudits projetait sur la restauration mondiale tous les attendus intellectuels de la construction occidentale en pierre de taille, avec une prétendue authenticité de la matière, avec un respect de l'œuvre plutôt que de la façon et de la pratique. Et ce document qui était caricatural de comportement culturel a bien évidemment été contredit très rapidement par tous ceux que tous ceux qu'il choquait. Et il faut donc extrêmement faire attention aux règles dites internationales qui sont parfois abusives et qu'il est absolument indispensable de réinterpréter. Aujourd'hui, le principal obstacle intellectuel à la reconstruction de monuments détruits et que des populations souhaitent reconstruire, c'est cette fameuse charte d'Athènes. On en arrive au paradoxe qu'un document culturel est aujourd'hui une entrave culturelle. Il y a donc un jour à réécrire la charte d'Athènes, c'est indispensable. Après, sur le choix des monuments que l'on... N'oubliez pas que monument, ça veut dire mémoire. Sur le choix des mémoires que l'on veut garder, là-dessus, c'est extrêmement variable. Toutes les mémoires ne sont pas bonnes. Et toutes les mémoires chargées de bonne conscience ne sont parfois à générer des effets pervers. Il y a là-dessus une vraie responsabilité collective sur ce qui va déterminer des choix et à partir de desquels on reconstruit une identité. Ce n'est pas simple. Et faire notamment une mauvaise reconstitution, une mauvaise restauration, une mauvaise reconstruction d'un monument amoindrit considérablement la mémoire que l'on veut qu'il transmette.
Vincent Negri, il y a aussi des conditions politiques qui peuvent poser question sur la restauration ou la reconstruction. Je pense à l'Afghanistan et au Bouddha de Bamiyan, par exemple. Ils ont été dynamités il y a 20 ans par les talibans. On peut se demander s'ils seront reconstruits un jour, dans la mesure où les talibans sont susceptibles de revenir au pouvoir dans le pays dans un délai relativement rapproché.
Je trouve que la question des Bouddhas est intéressante parce que finalement, ce que je vais vous dire va peut-être effectivement vous sembler un petit peu curieux, mais je trouve qu'il y a une puissance évocatrice très forte quand on voit ces qualités vides aujourd'hui. C'est-à-dire que, et je vous rappelle que les Bouddhas n'étaient pas inscrits au patrimoine mondial de l'humanité avant que finalement les talibans mettent les projecteurs dessus. Donc, faut-il reconstruire ? Moi, je suis partagé sur cette question-là. Moi, je me dis, au bout d'un moment, bien que gardons la trace aussi de ce qui s'est passé, et parce que finalement, toute reconstruction conduira à faire un faux. Et donc, doit-on faire des faux Bouddhas pour remplacer les originaux ? Alors, très franchement, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Et je sais parfois que certains peuples préfèrent conserver la trace traumatique, on va dire, plutôt que d'avoir un succès d'année qui n'est jamais effectivement qu'une réplique imparfaite de ce qui a été détruit.
Jacques Moulin, sur cette question des Bouddhas de Bamiyan, les niches dans lesquelles ils se trouvaient ont été consolidées, elles ont été restaurées. Est-ce que justement l'idée de laisser l'écrin mais vide pour souligner l'absence, c'est pas aussi une forme d'entretien de la mémoire?
Oui, c'en est une, surtout dans un cas de figure aussi extrême que celui des Bouddhas de Bamiyan, qui non seulement ont été dynamités de telle sorte qu'il est vain de penser qu'on pourra en recoller les morceaux, mais avant même qu'ils soient détruits par les talibans, ils avaient été défigurés il y a quelques siècles pour en enlever les visages. Donc jusqu'où referait-on quelque chose? Ça pose des questions sur la réinterprétation des siècles. Mais si aujourd'hui, devant une œuvre aussi difficile à reconstituer de manière crédible, et on sait à quel point un certain nombre de Bouddhas qui ont été reconstruits l'ont été avec du ciment peint n'importe comment, ça répond peut-être à une pratique religieuse, mais en tout cas certainement pas à un respect artistique. Donc il y a des œuvres majeures comme celle-ci qu'il est formidablement difficile, voire totalement impossible de reconstituer.
Parce qu'en plus, ce serait très long, hein, il faut quand même le préciser, ce sont des dizaines d'années de travaux.
Non seulement très long, mais je crois, avec Vincent Negri, je crois que ce serait assez vain. En revanche, cette évocation des sortes de sarcophages creusés dans la falaise, elle peut être extraordinairement exploitable comme lieu de mémoire. En revanche, laisser les choses comme cela est en permanence conservé un drame. Il y a un moment, à réfléchir, à savoir comment on dépasse un drame, comment une projection, par exemple, nocturne peut évoquer des Bouddhas détruits parce qu'on en a des photos sans pour autant toucher à l'œuvre, comment faire en sorte que l'exploitation du site en termes de paysagement, en termes de mise en valeur, en termes de capacité de photo à travers le monde puisse être un lieu. Il y a des capacités, encore une fois, de réinterprétation d'un drame. Il n'y a pas que la réfection matérielle qui compte, il y a la reconstruction mentale. Et si l'on veut garder une mémoire, elle est largement autant mentale que matérielle.
Vincent Négri, il y a aussi la question du financement. Ce sont des travaux de longue haleine avec des techniques ancestrales, rares. Comment est-ce qu'on peut financer des choses aussi importantes quand on sort d'une guerre ? Il y a une question prosaïque, en fait.
Bah, si vous parlez de l'Afghanistan, bien évidemment, je dirais que ça ne peut être obtenu que par des levées de fonds et notamment du financement privé de ce point de vue-là. Mais si on parle par exemple des mausolées Tombouctou, on sait que bien évidemment, ce n'est pas l'auteur des destructions qui a payé les reconstructions, parce que Al-Mahdi El-Faqi est absolument insolvable de ce point de vue-là. Donc il y a un dispositif dans le statut de la Cour pénale internationale qui est de doter un fonds spécifique pour la réparation, et donc toute personne peut contribuer à ce fonds. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est de satisfaire les besoins des victimes. Et ce point de vue-là, que le système est construit, ce n'est pas effectivement de chercher à mettre une charge insupportable de toute façon, qui est inatteignable par l'auteur de destruction, mais de mettre en place un mécanisme de financement pour compenser le dommage subi par les victimes.
Oui, Jacques Moulin, il y a une solidarité internationale sur ces questions. Ça s'organise comment d'ailleurs ?
Il y a plusieurs moyens. Effectivement, c'est rarement sur l'auteur du drame que l'on peut se retourner. En revanche, il y a une volonté de mémoire dans la reconstruction collective d'un pays, d'un peuple. Ça a une valeur. On ne peut pas réduire un comportement humain, une société qui se reconstruit à un fonctionnement matériel. Le besoin de se retrouver sur des œuvres collectives, sur des valorisations communes, peut parfois contribuer à la reconstruction sociale. Je ne mettrai pas le prix de la reconstruction d'un grand monument en regard de la construction d'une école, d'un réseau d'égouts ou d'une alimentation d'eau. Les deux sont indispensables. Nous ne sommes pas que des individus matériels. Ensuite, cette reconstruction, il y a, elle est parfois moins onéreuse qu'on veut bien le dire au regard du fonctionnement et d'un budget d'un pays, mais surtout, il y a des solidarités collectives, il y a aussi la volonté qu'une démonstration de reconstruction est peut-être le seul frein à la volonté de détruire. Si la destruction est vaine parce qu'elle sera remplacée, elle sera certainement moins motivée.
Est-ce qu'on doit reconstruire, j'en termine avec cet exemple, Jacques Moulin, Palmyre en Syrie, dont certains temples ont été dynamités par l'organisation terroriste État islamique, ça équivaut à reconstruire des ruines. Est-ce que c'est pertinent ?
Pour avoir eu la chance de visiter Palmyre peu
aussi,
avant leur
ouais.
destruction, ces fameuses ruines, elles étaient déjà largement reconstruites, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des blocs qui ont été remontés, des colonnes qui ont bénéficié d'une anastylose, etc. Donc, il ne faut pas croire que la ruine était un produit venu de l'Antiquité, parvenu miraculeusement jusqu'à nous, dégagé des sables et ensuite détruite. Toute ruine doit s'entretenir, même si elle est très ancienne, même si elle est en pierre de taille, oui. Et l'idée de réintervenir dessus est possible. Mais par exemple, à Palmyre...
Très rapidement, Jacques Moulin, parce qu'on en termine.
Mais il n'y avait qu'un dixième des ruines anciennes qui étaient apparentes. Qu'est-ce qui empêcherait de poursuivre les fouilles ailleurs et de dégager les vraies ruines de Palmyre ? Palmyre est encore pleine de richesses.
Merci Jacques Moulin, merci également à Vincent Négri, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Rendez-vous sur RFI du lundi au